à la SNCF RFI, midi 10, dans quelques secondes à Paris. Vous retrouvez tout de suite Emmanuel.
Et merci beaucoup à RFI pour ce journal. Midi 10 également à Bordeaux, où vous écoutez le plat de résistance sur la clé des ondes. Aujourd'hui, nous, on va revenir sur le congrès de la Ligue des droits de l'homme qui avait lieu ce week-end à Bordeaux. Et on va vous faire entendre les militantes et militants qui étaient présents au village des droits et des libertés ce samedi, place de la Victoire, où la clé des ondes était présente elle aussi. On commence avec quelques autres informations en bref. D'abord, l'État français reconnu coupable des graves blessures subies par Geneviève Leguet. Cette militante d'attaque, alors âgée de 73 ans, avait été grièvement blessée par une charge policière à Nice lors d'une manifestation des Gilets jaunes. C'était en mars 2019. Le tribunal administratif de Nice affirme que ces blessures résultent directement d'une mesure prise par l'autorité publique. Il s'agit d'un précédent juridique précieux, selon Attac, dans sa réaction. Attac qui parle d'une respiration démocratique en ces temps de criminalisation des engagements militants et des atteintes sans précédent aux libertés publiques. Fin de citation. Le commissaire ayant ordonné cette charge policière avait, lui, été condamné à 6 mois de prison avec sursis en janvier dernier. Et bien, il a depuis été embauché comme directeur adjoint de la police municipale niçoise. Une petite victoire également pour Julian Assange, le journaliste australien fondateur de Wikileaks, aura droit à une audience en appel qui pourrait lui permettre de ne pas être extradé vers les États-Unis. Sur quoi se sont basés ses avocats ? Eh bien sur la liberté d'expression garantie par le premier amendement de la Constitution américaine, mais qui pourrait ne pas s'appliquer à Assange s'il était jugé aux États-Unis. Les États-Unis doivent comprendre la situation et abandonner ce dossier maintenant, abandonner cette attaque honteuse contre les journalistes, la presse et le public, a déclaré son épouse Stella Assange. Hier, pour revenir sur Bordeaux, hier, un des nouveaux bâtiments du centre pénitentiaire de Gradignan a commencé à accueillir des détenus. Ils sont 300, dont 170 mineurs et 40 femmes, à avoir ainsi quitté l'ancien bâtiment dont la vétusté avait entraîné plusieurs ordonnances de la part de la justice. Les détenus transférés peuvent se réjouir qu'on les traite comme le demande la loi, avec notamment un détenu seulement par cellule contre 2 voire 3 dans l'ancien bâtiment où le taux d'occupation dépassait les 200%. Enfin, ce week-end aura lieu une nouvelle mobilisation contre la LGV du Sud-Ouest, une nouvelle sarabande à cheval entre la Gironde et le Lot-et-Garonne. On en parlera dans notre émission de demain midi. 2 semaines plus tard, du 7 au 9 juin, c'est dans le Tarn que se poursuivra cette fois la lutte contre l'A69, l'autoroute Castres-Toulouse. Pour y participer, pour s'informer sur cette mobilisation, eh bien une réunion d'info a lieu ce soir à Bordeaux. C'est à 18h30 à l'Athénée Libertaire, rue du Muguet. Midi 13 sur la clé des ondes. Samedi dernier, on était présent au village des droits et des libertés, place de la Victoire, un village qui se tenait dans le cadre du 92e congrès de la Ligue des droits de l'homme. On y a reçu tout plein de militantes et militants qu'on vous fera entendre dans les jours ou semaines à venir. On va commencer par vous faire entendre Nathalie Théillot, qui était à notre micro samedi, quelques heures avant d'être élue dans le week-end, nouvelle présidente de la LDH, où elle prend donc la succession de Patrick Baudouin, qui devient, lui, président d'honneur de la LDH. Et ben, on écoute tout de suite donc Nathalie Théillot.
Alors, on t'avait eu au téléphone il y a quelques mois de ça.
Oui, tout à fait.
Tu venais justement parler des pratiques policières, il me semble, à Bordeaux.
Et c'était incroyable parce que c'était le jour où est tombée la décision
sur le
Conseil d'État qui a imposé sur un recours que nous avions fait conjointement avec que la Ligue des droits de l'homme avait fait conjointement avec la CAT, avec le SAF et le SM. Nous avions gagné sur le fait que le ministère de l'Intérieur était contraint dans un délai d'un an de changer le matricule pour qu'il soit visible en toutes circonstances.
Donc le RIO, c'est le matricule.
C'est le matricule des policiers et des gendarmes, et qu'il soit porté de façon visible et apparente en toutes circonstances, c'est-à-dire y compris au maintien de l'ordre, alors que jusqu'à présent c'est caché en dessous du gilet tactique. Et du coup, c'est un problème de redevabilité en fait de la police, c'est-à-dire que la police doit rendre des comptes et que pour cela, il faut qu'elle soit identifiable. On a l'espoir que ça soit un moyen de faire réfléchir pour qu'il y ait moins de violences policières. Donc on a gagné. C'est, c'est quand même une belle victoire.
Est-ce que ça a changé l'application dans les faits?
Ben, le problème, c'est qu'il faut un temps pour faire un appel d'offres. Alors, c'est un temps qui a été offert de façon assez longue par le Conseil d'État, puisque c'est un an. Et ce n'est pas encore passé, puisque c'est une décision d'octobre, si vous vous souvenez bien. Donc, il faut attendre un an. Et il y a aussi le fait que le ministère est obligé de rappeler, de trouver un moyen pour que ce soit appliqué, en fait. Parce que même si dans les textes actuellement, même s'il est petit, parce que nous réclamions justement qu'il soit lisible et apparent, mais même si c'est petit, le texte permet que ce soit, enfin, oblige à porter, mais on voit que ce n'est pas fait. Donc là, le Conseil d'État a dit, bah, il faut que vous trouviez un moyen pour que ce soit effectif.
Un petit mot aussi, Nathalie Taillot, peut-être de l'ambiance dans ce congrès, 92e congrès de la LDS.
Ah, c'est extrêmement, c'est très très enthousiasmant, parce que vous voyez, on a les militants là, c'est extraordinaire de se retrouver, il y a beaucoup de chaleur, et puis c'est important, parce que quand on a eu ce matin une table ronde avec la Fédération internationale des droits humains, on a avec Euromed droit, donc sur le pourtour méditerranéen, avec le Forum civique européen, qui est une association européenne dans laquelle il y a la Ligue aussi, hein, mais de même que la Fédération, que la FIDH d'ailleurs, mais les constats sont dramatiques, hein, sur l'état des libertés, de la démocratie, y compris en France d'ailleurs, c'est ce qui ressort de cette table ronde. On s'inquiète beaucoup, et donc de ce fait c'est important de se retrouver entre militants pour se dire bon, on n'est pas seul, on est nombreux, la salle est pleine, ça fait du bien.
Peut-être deux points. La question du renouvellement un peu des générations, des adhérents au sein de la LDH. On avait juste avant Garance et Mathilde qui sont dans les observatoires aussi, qui font partie de la Ligue des droits de l'homme. On a beaucoup parlé aussi du fait qu'il y avait une nouvelle vague d'adhésion depuis les menaces de Darmanin l'année dernière, qui avait fait de la pub à la LDH et amené des nouvelles personnes. Et puis face à ces dangers dont tu parles, peut-être... j'ai envie de dire une radicalisation de la LDH sur certaines questions pour faire face aux dangers.
Je trouve ça étonnant de dire que c'est une radicalisation, parce que moi j'ai plutôt l'impression qu'on est dans la continuité. On va dire qu'au moment de l'affaire Dreyfus, quand la LDH s'est créée, bah alors dans ce cas-là on était radicaux, hein, déjà, puisque à l'époque, je rappelle, c'était bah non, faut pas toucher à l'armée, il faut, y a un coupable idéal, et puis en plus il est juif, tout va bien. Et donc heureusement qu'il y a eu, comme Ludovic Trarieux qui est de Bordeaux, et quelqu'un il y a eu des personnes qui se sont levées pour dire c'est antisémite, il est hors de question qu'on continue à tenir de tels propos et à y avoir de telles pratiques. Et puis, de toute façon, on ne peut pas admettre la raison d'État. Il faut se lever contre ce type, qu'on condamne un innocent parce qu'il s'agit de l'armée. Mais donc moi, j'ai l'impression que c'est depuis toujours qu'on nous accuse de pas être dans les clous, tout simplement parce qu'on s'élève au nom de principes, de valeurs qui n'ont pas changé. C'est toujours la Déclaration des droits de l'homme d'ici à 1789. C'était radical, ça aussi, hein, cette déclaration. Mais c'est aussi la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et là, quand je vois à quel point maintenant cette convention est attaquée, je me dis que c'est quand même terrible de se dire que de défendre les droits et les libertés, ça devient de la radicalité. Enfin, c'est quand même dramatique. Ça devrait être la substance même de la démocratie, et donc que tous les citoyens se lèvent pour défendre la liberté. À la limite, on devrait tous être à la Ligue.
Il y aura un débat important en clôture, je crois, de ce congrès lundi soir, avec des organisations syndicales, notamment associatives, cet appel à se dresser contre l'extrême droite et à agir contre l'extrême droite. Qu'est-ce que toi tu en attends de ce moment, et qu'est-ce que
Il faut que la résolution soit votée en ce sens. Bon, a priori, parce qu'il n'y en a pas.
Qui dit quoi ?
Ben justement, c'est une résolution sur la démocratie qui fait un appel aux forces militantes, mais syndicales et associatives, mais en disant que il va falloir qu'on se lève tous, parce que là, on voit bien que l'extrême droite, elle se renforce de jour en jour, qu'on a vraiment peur de son arrivée au pouvoir, parce que là, il faut bien se rendre compte que ce sera plus au niveau municipal, c'est au niveau de l'appareil d'État, et l'appareil d'État, c'est un rouleau compresseur. Quand on voit ce qui se passe déjà aujourd'hui avec justement M. Darmanin, etc., on se dit demain, si c'est l'extrême droite, on va se faire massacrer. Donc du coup, tous ceux qui luttent pour les droits, hein, de toute façon. Donc là, il faut se lever vraiment tous ensemble. Il va falloir trouver un moyen de créer de l'unité, parce qu'il n'y a que comme cela qu'on aura suffisamment de force. Et pourquoi est-ce que l'extrême droite est si forte? C'est aussi parce qu'il y a un autre courant et qui est à la manœuvre au gouvernement, qui est le courant néolibéral, et qui à la fois utilise l'autoritarisme, parce qu'on renforce l'État, mais dans un sens de l'autoritarisme, et c'est le sécuritaire à tout prix. Et pourquoi est-ce que c'est ainsi? Ben parce que de l'autre côté, on fait la casse sociale, on détruit les services publics, et donc on crée de plus en plus d'inégalités sociales, et on sait bien que c'est le terreau pour l'extrême droite. Donc en fait, les politiques qui sont menées actuellement sont vraiment un terreau pour faire que l'extrême droite prospère, et d'autant plus que sous prétexte de lutter contre l'extrême droite, en réalité on reprend ses anciennes, ou bien par exemple sur la loi immigration. Et ça va très loin, puisque Emmanuel Macron, président de la République, a même assumé de dire ben, on va voter une loi qu'on sait être inconstitutionnelle, et pourtant on va quand même la voter. Alors certes, le Conseil constitutionnel a fait son travail, mais c'est quand même grave que le président de la République, qui dans la Constitution de 58 est le garant des institutions, donc le garant aussi de la Constitution, eh bien, au lieu de protéger les institutions et la Constitution, il appelle à voter une loi inconstitutionnelle. C'est là où l'état de droit est particulièrement vacillant. Et c'est ce qui va aussi faire que, un, si l'extrême droite va arriver, elle va déjà avoir finalement le tapis rouge, hein, puisque les atteintes aux libertés, on en voit tous les jours, et notamment la liberté d'expression et la liberté d'association aussi, hein, avec le contrat d'engagement républicain. C'est la liberté de réunion. Tout cela, on le voit sans cesse. Donc ça facilite les choses si jamais l'extrême droite arrive au pouvoir, parce que c'est là aussi un pouvoir autoritaire qui sera mis en place. Mais en plus de cela, ça facilite les choses parce qu'il y a il faut toucher les consciences. Or, le problème, c'est que si le gouvernement lui-même utilise le même langage, le même discours, finalement, les gens risquent de ne plus être touchés lorsque l'extrême droite utilise des thèmes qui sont graves, en fait, qui vont à l'encontre même de la devise liberté, égalité, fraternité.
Merci beaucoup Nathalie Taillot. Il faudra qu'on revienne prendre des nouvelles du coup de la Ligue des droits de l'homme après ce congrès voir ce qui aura été décidé, ce qui aura changé.
Mais je voulais quand même, parce que je suis encore référente nationale des pratiques des observatoires des pratiques policières, donc je voulais finir par ça en disant que c'est vraiment c'est un travail extraordinaire qui est fait par ces observatrices, ces observateurs, avec beaucoup de courage. Je salue leur courage parce que il y a des manifestations où ça se passe bien, que tout va bien, mais au sens que les observateurs et observatrices n'ont pas été mis en danger. Ça se passe bien pour l'observation, mais à Sainte-Soline ils ont été mis en danger, c'est leur vie elle-même qui a été mise en danger. Donc je voulais vraiment les saluer leur courage, mais aussi dire que c'est un engagement de contre-pouvoir citoyen, et c'est pour ça aussi que j'engage les gens à venir rejoindre les observatoires, parce que c'est grâce à cela qu'on peut porter un contre-discours, et par rapport justement, je disais, c'est un rouleau compresseur, ben voilà, parfois il y a un petit grain de sable, et ben c'est ça. On est au bon endroit, au bon moment, et on fait un travail d'observation.
Très bien.
D'ailleurs, qui est repéré au niveau international.
Voilà, le petit grain de sable de la LDH, c'était Nathalie Taillot qu'on a interviewé samedi dernier. Nathalie Taillot qui est la nouvelle présidente de la LDH. Pour continuer à revenir un peu débriefer ce 92e congrès de la LDH, on est au téléphone avec Pierre-Antoine Cazot. Salut Pierre-Antoine.
Salut Baptiste, bonjour à tous. Il y a un peu de vent là où je suis, mais on va essayer de faire avec.
Voilà, donc tu étais avec nous la semaine dernière. Déjà, on abordait un peu la question principale de ce congrès qui était la question de l'extrême droite. Il me semble qu'entre-temps, tu as maintenant rejoint le bureau national de la LDH, c'est bien ça ?
C'est ça, oui.
Peut-être un petit mot sur les résolutions qui ont été votées durant ce congrès, à commencer donc par cette résolution générale intitulée « Pour une alternative démocratique, sociale et écologique », dans laquelle la LDH se propose d'être une table commune et ouverte permettant l'agrégation des différentes forces syndicales, associatives et politiques pour faire émerger une alternative politique unitaire à même de défaire l'extrême droite dans les urnes pour les élections municipales de 2026, puis l'élection présidentielle de 2027. C'est quelque chose d'assez fort de la part de l'LDH de prendre cet engagement qui mélange effectivement forces syndicales, associatives et politiques. Quelle analyse peut-être vous a conduit à ça, Pierre-Antoine, et comment est-ce que cette résolution a été accueillie par l'ensemble des adhérents, adhérentes de l'LDH?
Ce qui nous conduit à cette analyse, c'est à la fois la mise en danger de l'état de droit actuellement d'un côté avec tout un tas de mesures qui serait trop long de revenir là tout de suite, mais en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne le droit des étrangers, etc., qui font que nous sommes déjà particulièrement inquiets de la situation, mais avec en plus de ça une extrême droite qui est en embuscade pour essayer de prendre le pouvoir aux prochaines élections nationales. Et donc il y a un risque d'un danger qui serait celui de la résignation des uns ou des autres, ou celle de se dire aussi finalement aussi parce que on a déjà un pouvoir qui porte déjà un peu atteinte à la démocratie et à l'état de droit, finalement, il faudrait pas combattre l'extrême droite, ou il faudrait arrêter de le faire. Et nous, on se dit, il faut absolument pas se résigner, il faut absolument pas considérer que il y aurait finalement une égalité stricte entre ce que fait le gouvernement et ce que pourrait faire l'extrême droite au pouvoir. C'est ce qu'on entend parfois dans certains discours, et il faut bien distinguer les deux, parce que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, c'est toute la démocratie et le principe même de la démocratie qui peut être à long terme en danger. Évidemment, on n'est pas dans une situation comme dans les années 30. On n'est pas, il n'y a pas un risque immédiat, parce que je pense que l'extrême droite est assez subtile et comprend un peu les prises de position et les rapports de force. Néanmoins, on a vu aux États-Unis, on a vu au Brésil, que même aux États-Unis, qui est quand même une grande démocratie, Donald Trump a essayé de prendre le pouvoir et de s'y accrocher à la toute dernière minute. Donc l'extrême droite, c'est un danger particulier, il faut absolument le combattre.
Ça a été rappelé dans les discussions, le rôle qu'avait joué la LDH dans les années 30, en 34 notamment, de réunir les forces syndicales politiques à l'époque. Là, c'était hier, en conclusion du congrès, il y avait des représentants d'ATAC, de la CIMAD, de Greenpeace, du syndicat de la magistrature, des syndicats des avocats de France, de la Confédération paysanne, de la FSU, de Solidaires, de la CFDT, de la CGT, d'Oxfam. Ça fait beaucoup de monde qui était autour de la table déjà pour parler de ces questions-là. Ça veut dire qu'il y a une forme de... l'ALDH est bien placée et au bon endroit pour rassembler tous ces gens. Comment vous allez faire dans les semaines, les mois à venir pour continuer cette dynamique, Pierre-Antoine?
On pense qu'on a un rôle... Ne serait-ce que parce que il y a deux choses. Un, nous sommes une association généraliste. Donc c'est vrai qu'on touche et on discute avec beaucoup de forces, organisations, syndicats, etc. Ensuite, on pense qu'on a un projet de société qui est important. C'est la garantie effective des droits pour toutes et tous. Et ça, c'est quelque chose qu'on tient absolument à défendre. Alors après, comment ça va se faire, etc. On verra. La première chose qu'on a commencé à faire déjà hier, c'est une table ronde, c'est une discussion, c'est un échange. Et puis, le reste, on le construira avec les partenaires qui le voudront. Et ça, c'est des choses qui vont se construire. Donc, le comment exactement n'est pas défini, mais ce qui est clair, c'est notre horizon, c'est-à-dire construire cette alternative démocratique, sociale et écologique.
Très bien. Peut-être un tout petit mot. Il y a une deuxième résolution qui a été votée ce week-end qui appelait à une paix juste et durable entre les peuples israéliens et palestiniens dans le respect du droit international. Voilà, d'autres choses à rappeler de ce qui a été dit, de ce qui a animé vos discussions durant ce week-end, Pierre-Antoine?
C'est toujours un moment de démocratie. Je pense que tout le monde est bien conscient à la LDH des enjeux qui sont devant nous face à l'extrême droite, face à la situation géopolitique aussi internationale. C'est vrai que ces deux sujets ont beaucoup occupé nos discussions. Et puis après, le reste, c'est la vie interne de l'organisation d'une association. Et c'est peut-être moins intéressant pour tout le monde. Quoique, nous avons aussi fait un village des droits. Nous avons aussi beaucoup parlé d'habitat indigne. Nous avons avons fait discuter aussi de la question de l'esclavage avec notamment des débats extérieurs et publics et des expositions sur ce sujet, parce qu'il faut pas oublier aussi que Bordeaux était un port négrier et que c'était aussi important pour nous de le signaler.
Et on reviendra sur tout ça avec notamment la table ronde que la Clé des Ondes a enregistrée sur la question du logement dans les jours à venir. Merci beaucoup Pierre-Antoine d'avoir été avec
Merci
nous
Baptiste.
Pour nous rappeler tout ça. À très bientôt et bon courage.
À bientôt. Merci.
Pour la Ligue des droits de l'homme. On continue, nous, à vous faire entendre donc des interviews qu'on a enregistrées samedi dernier dans ce village des droits et libertés, et notamment des jeunes militants de la LDH qui sont venus à nos micros et qu'on écoute tout de suite.
Et on va continuer à donner la parole justement à des militants, militantes de la Ligue des droits de l'homme et des jeunes militants, militantes qui nous ont rejoints autour de notre table et notre stand de la Clé des Ondes. Bonjour à vous Léa, Étienne et Jules.
Merci, bonjour.
Peut-être j'ai envie de commencer, on va revenir à là, le congrès donc a commencé ce samedi matin. Peut-être il y a des choses à raconter sur ce qu'il s'y dit, mais commencer par peut-être un peu vous, vos parcours et qu'est-ce qui vous a amené personnellement à adhérer, à vous impliquer dans la Ligue des droits de l'homme, Léa.
Du coup, moi je suis étudiante en sciences politiques en deuxième année et j'ai toujours été intéressée par les droits humains, j'étais à l'UNICEF et du coup j'ai découvert la Ligue des droits de l'homme en septembre et donc vraiment ça a été un renouveau pour moi de mon engagement militant, notamment avec les permanences, donc je pourrais en parler après, mais voilà.
Étienne ou Jules, pardon Jules.
Oui c'est Jules. De ce fait, moi je suis jeune ingénieur, j'ai toujours été très actif associativement, donc aussi bien avant mes études que pendant mes études. Et c'est ce qui m'a donné l'envie de rejoindre la Ligue des droits de l'homme, notamment que j'ai connu par sa communication, je veux dire à travers certains événements comme la fête de l'humanité, mais aussi par les attaques qu'elle a subies l'année dernière par le ministre de l'Intérieur notamment.
Tu fais partie de ces adhérents grâce au coup de pub de Darmanin.
Oui, en quelque sorte. Enfin, je suis arrivé beaucoup plus tard, je suis arrivé en octobre, mais c'est un peu ça.
De quel territoire? J'ai oublié de demander à Léa, toi, Julien.
Je suis aussi de Lille, on est dans la même section avec
Léa. Ok, super. Et toi, Étienne?
Alors moi, j'avais commencé à militer en tant que syndicaliste étudiant. Et bon, une fois que j'avais démarré ma vie professionnelle, ben, j'ai voulu continuer certains engagements que j'avais eu pris en tant qu'étudiant. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers la Ligue des droits de l'homme. Par ailleurs, voilà, je m'étais commencé à me poser la question de mon adhésion à la Ligue des droits de l'homme au moment de la loi sécurité globale. Et puis bon, il y a eu Sainte-Soline, les propos de Darmanin. Donc voilà, ça a confirmé mon choix d'adhérer. Donc j'ai adhéré depuis le début de cette année. Et donc là, moi, je suis à Noisy-le-Sec. Donc voilà, je suis dans la section Ponty, Rony, Noisy, Bobigny.
Très bien. Tu disais poursuivre ton engagement du syndicalisme étudiant. C'est quoi cet engagement? C'est quoi les thématiques, toi, qui t'ont amené vers la LDH?
Alors, ce que j'ai eu en tant que syndicaliste étudiant, j'étais confronté, donc, c'est pas dire ironique, mais peut-être un petit clin d'œil, j'étais sur l'île. Donc, j'étais notamment sur l'île 1 où il y a beaucoup d'étudiants étrangers, donc c'est-à-dire beaucoup de problématiques, notamment de titre de séjour. Et j'étais aussi, quand j'étais étudiant, au moment de ce qu'on appelait Bienvenue en France. Donc, c'est-à-dire le moment où le gouvernement, c'était à l'époque Édouard Philippe qui était Premier ministre, avait décidé que les étudiants étrangers payeraient 10 fois plus que les étudiants européens. Et donc voilà, je me retrouve parmi les engagements. Donc en faveur du droit des étrangers, je me retrouve dans la LTH, donc des engagements que j'avais déjà en tant que syndicaliste étudiant.
Très bien, merci Étienne. On a un quatrième camarade de la LDH qui vient de nous rejoindre. Bonjour, je te laisse peut-être te présenter, nous dire toi qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre la Ligue des droits de l'homme.
Bonjour, Adrien Morey-Casalta. Moi, en fait, j'étais engagé au niveau étudiant, pas mal déjà pour l'accès à l'enseignement supérieur, etc. Et quand j'ai fini mes études, à un moment, je me suis dit j'ai envie de continuer. De continuer cet engagement. J'avais déjà vu pas mal la LDH aussi à ce moment-là sur les questions de liberté publique. Parce que moi, c'était la grande époque où il y avait du coup eu les attentats, il y avait la mise en place de l'état d'urgence, de la loi de sécurité. Et la LDH avait été là et quasiment la seule à ce moment-là produire des analyses, donc nous permettre de réfléchir un petit peu autour de ce qui se passait et faire de l'information, se mobiliser contre. Et c'est vrai que c'est un peu là-dessus que j'ai rejoint la LDH avec cette idée de toujours, en fait, quand les situations sont complexes, que les choses deviennent de plus en plus compliquées, regarder vis-à-vis des droits, les droits qu'on a, les droits qu'on veut conquérir, et réussir à penser les choses quand c'est difficile avec cette idée-là.
Qu'est-ce que ça représente peut-être pour vous, la LDH ? On m'a dit que c'est une structure qui est très âgée aujourd'hui, 126 ans, je crois, depuis la création de la LDH. Quelle image vous aviez de la LDH qui vous a donné envie de la rejoindre, Adrien ?
C'est vrai que c'est un monument, et quand on arrive, on sent aussi le côté monument, mais avec une richesse de réflexion aussi qui est extrêmement forte, et une capacité de mobilisation, de faire des choses avec, qui est très grande. C'est-à-dire qu'on met un autocollant LDH, on fait un tract avec le logo de la LDH, on sait que tout de suite c'est clivant, mais clivant dans le bon sens, on est généralement bien accueilli, et après on est en capacité de dérouler les droits et d'être reconnu un petit peu avec une expertise là-dessus.
Peut-être même question à toi, Léa, sur l'image de l'LDH que tu avais, et pourquoi cette structure-là ?
Moi, la LDH, c'était vraiment une association qui était toujours en première ligne. Par exemple, dans les manifestations, on avait un observatoire des libertés en manifestation, du coup, pour voir quand la police faisait des mauvaises choses. Et ça m'a vraiment donné envie de m'engager avec la LDH.
Peut-être on n'a pas donné vos âges, toi Léa.
J'ai 19 ans.
19 ans. Adrien.
Moi 30, tout jeune.
Jules.
Moi j'ai 24 ans.
Et Étienne.
28 ans.
Très bien. Léa, pour continuer avec toi, tu parlais des permanences. Peut-être tu veux dire un mot sur ce que c'est ces permanences. Quel type de permanence propose la LDH ?
LDH qu'on ne connaît pas vraiment. C'est pour ça que je voulais vraiment en parler. Et on fait de l'accès aux droits pour les étrangers. Vraiment, c'est le plus gros de notre travail, notamment à Lille. Et du coup, on rencontre pendant 3 heures, toutes les 2 semaines, des gens qui ont besoin d'aide pour leur régularisation. Avec la dématérialisation, on a de plus en plus de monde parce qu'ils n'ont pas accès à des ordinateurs. La plupart, ils vivent dans la rue ou ils ont... Ils ne parlent pas français, il y a tous ces problèmes-là auxquels nous, on s'ajuste et que l'État ne s'ajuste pas. Donc c'est quand même une grosse partie de notre travail qui est très importante, je pense, et qui nous permet d'agir vraiment sur la réalité des choses.
Jules, Étienne, sur ces questions-là, de comment, voilà, une fois rentré, qu'est-ce qui vous a amené particulièrement de la LDH, quelle image vous aviez, et qu'est-ce que ça permet aussi d'être dans cette grande maison qui a cette forme de reconnaissance, de légitimité? Est-ce que c'est un endroit où on peut plus facilement porter un discours qui sera reconnu, qui sera entendu, que dans d'autres structures peut-être plus moins importantes, avec moins de militants à l'intérieur? Jules ?
Alors moi je pense pas que ça soit que la parole est plus portée. Je pense que dans tout milieu militant il y a une écoute. Après la LDH a une position très intéressante parce qu'elle est très ancrée en termes de militantisme à gauche, mais elle a quand même cette position qui lui permet d'être écoutée par de nombreux hommes politiques et même par des gouvernements, même si aujourd'hui c'est un peu différent. Mais je trouve que ça... À la LDH, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment cette possibilité aussi de développer des sujets. Parce que c'est, comment dire, la LDH est présente sur énormément de sujets, va intervenir un peu partout, et ça permet à chacun de trouver sa place au sein de l'association, et après, d'ajuster en fait son militantisme en fonction des causes qui nous portent, finalement.
J'ai fait un passage très rapide tout à l'heure dans l'assemblée, dans l'amphithéâtre où il y avait les discussions de ce congrès. J'ai quand même vu qu'il y avait beaucoup de cheveux blancs, beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes blanches. Comment ces questions-là d'inclusivité et de présence de minorités de genre, de classe, de race, comment cette question-là elle est présente à la Ligue des droits de l'homme, et est-ce que il y a un travail quand même qui est fait pour essayer d'élargir un petit peu et de faire en sorte que la LDH accueille davantage de diversité. Léa, je vois que tu as envie de répondre là-dessus.
Ça a été une une question notamment pour notre rapport d'activité tout à l'heure. Donc c'était le fait de parler aux quartiers populaires, ce que la LDH a beaucoup beaucoup de mal à faire. Et même quand on rentre dans l'amphithéâtre, c'est vraiment beaucoup de personnes assez vieilles. Déjà, nous, on détonne un petit peu. Et beaucoup, très peu de personnes racisées. Au niveau mixité de genre, ça va. Mais sinon, c'est quand même très compliqué. Et je pense que c'est un des grands travaux de la LDH qu'on doit faire. Et de ne pas être qu'une association élitiste, mais vraiment une association de droits de l'homme.
Là-dessus, est-ce que tu sens qu'il y a des freins, il y a des choses qui... Enfin, est-ce que quand tu dis que ça a été une question du rapport d'activité, est-ce que ça crée des débats? Est-ce que tu sens qu'il y a des blocages? Alors, j'imagine pas sur le principe, parce que voilà, ça va avec les droits de l'homme, les droits humains, etc. Mais en tout cas, sur peut-être les choses qu'il faudrait faire pour aller vers quelque chose de plus ouvert. Est-ce que ça freine, ou est-ce qu'au final, c'est une question qui, voilà, maintenant est à l'heure du jour et qu'on peut imaginer que ça va être mis en place et que l'année prochaine... ou dans 2 ans ou dans 3 ans les choses auront changé?
Je pense que ça va prendre quand même du temps parce que justement nos militants ils sont anciens, ils ont des habitudes et pour changer les habitudes c'est compliqué. Du coup je pense que c'est à nous de faire et d'évoluer nos manières de faire et d'aller plus vers les quartiers populaires, plus vers des personnes racisées, plus vers de la mixité en fait. Et je pense que c'est plutôt à nous de le faire parce que c'est pas les anciens qui sont là depuis 50 ans qui vont le faire.
Étienne, tu voulais réagir là-dessus aussi?
Oui, en fait, c'est un petit peu pour lier les deux questions sur comment on se rend à sa place à LTH et les questions d'inclusivité. Il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est que la LTH a quand même, en tout cas au niveau de l'Île-de-France, un maillage territorial. Ça veut dire, si on veut militer en Île-de-France au sein de la LTH, par exemple, bon après je parle pas du reste de la France parce que voilà, je suis arrivé que récemment et donc je connais pas la situation partout, mais on peut militer près de chez soi. Et il y a aussi une dynamique, pour le coup, à l'ETH, de s'approprier certaines questions, notamment les questions de violence policière, des questions plus en lien, en proximité avec les quartiers. Alors, je ne dis pas que tout est magnifique et en effet, il y a des problèmes d'inclusivité qui ont été posés, mais au moins, en tout cas, en termes d'analyse de ce que peuvent subir les habitants de quartiers populaires et des réponses qu'on peut apporter, il y a un petit peu de réflexion. Alors, voilà, c'est pas parfait, mais au moins, on a une base sur laquelle démarrer. Donc, reste plus qu'à, en effet, comme disait Léa, faire changer les pratiques militantes.
Justement, c'est vrai qu'on n'a pas posé cette question-là tout à l'heure aux personnes des observatoires des pratiques policières, mais est-ce qu'il y a aussi des observations qui peuvent se faire dans des quartiers populaires à l'occasion, on pense là à la mort de Naël qui a eu il y a bientôt 1 an. C'est aussi ces terrains-là, peut-être qu'il s'agit d'investir pour la Ligue des droits de l'homme, Jules ?
La Ligue des droits de l'homme de Lille, la section de Lille, elle a notamment été présente lors de ces manifestations qui avaient lieu et elle est présente systématiquement dès qu'il y a un rassemblement ou à tous les rassemblements elle va être présente dès qu'il y a suspicion qu'il pourrait y avoir des violences parce qu'après il y a des rassemblements où forcément on ne déploie pas forcément tout le temps l'observatoire, parfois ça n'est pas nécessaire étant donné qu'il y a des manifestations qui se passent relativement bien, heureusement.
Il me semble qu'à l'ordre du jour de ce congrès, il y a aussi une question sur le nom de la LDH. Alors c'est peut-être une question, une micro-question, une non-question, une question symbolique aussi, de est-ce que c'est toujours la Ligue des droits de l'homme, même avec un H majuscule, ou est-ce que c'est la Ligue des droits humains, ou encore autre chose. Est-ce que pour vous c'est une question importante, et est-ce que vous avez un avis sur cette question-là? Adrien, peut-être?
Moi, j'irais juste à ce niveau-là que, en fait, il y a une consultation au niveau de la Ligue des droits de l'homme en interne qui a montré un clivage entre ceux qui voulaient garder le nom d'origine et ceux qui voulaient évoluer vers un nouveau nom. Et on a une proposition à ce congrès qui va être votée et qui a pour objectif d'utiliser un nom qui soit générique, LDH, afin que chacun puisse, derrière ce sigle, mettre ce qu'il veut. Donc finalement, soit dire Ligue des droits de l'homme, soit Ligue des droits humains. On peut même imaginer d'autres tournures qui vont être acceptées. Donc tout ça est dans la proposition qui sera faite au congrès. Et je trouve que c'est peut-être pas la meilleure solution pour tous, mais ça permet d'avoir un consensus au sein de la Ligue et de réunir tout le monde au sein d'un même projet.
Adrien.
Bien justement la question que tu posais tout à l'heure sur les évolutions de la Ligue, c'est-à-dire que la Ligue elle évolue et pour avoir, moi c'est mon troisième congrès à la Ligue, je la vois rajeunir en fait de congrès en congrès, se diversifier de congrès en congrès et ça franchement ça fait plaisir. Et peut-être juste une chose qu'on n'a pas souligné mais moi qui m'avait beaucoup surpris et que j'ai trouvé assez impressionnant à contrario à l'arrivée à la Ligue, c'est que la Ligue c'est pas qu'une structure qui est présente dans les villes, c'est-à-dire qu'elle est énormément présente en zone rurale et que du coup elle permet aussi dans les zones rurales à pas mal de gens de militer. Et c'est aussi un autre type de diversité qu'on aborde moins, où il y a moins d'organisations militantes qui sont présentes et là pour le coup il y a une vraie force de la Ligue.
Alors justement, ce lien entre les villes et les autres territoires, c'est vrai que ça revient à la question qu'on entend beaucoup. On en a parlé, nous, à la Clé des Ondes la semaine dernière, en amont de ce congrès. C'était la question un peu aussi hier lors de la conférence sur la démocratie, de cette question de l'extrême droite et de comment on fait front face à l'extrême droite. On sait que c'est aussi une des clés, sans doute, d'être présent davantage sur l'ensemble du territoire pour les associations, collectifs, partis, syndicats de gauche. Quel regard vous avez là-dessus, vous qui êtes plutôt présent dans les villes, est-ce que ça vous semble, comment vous voyez peut-être d'abord cette question-là de l'extrême droite et est-ce qu'elle vous fait peur et comment vous envisagez les réponses à apporter face à cela? Qui a envie de se lancer, Adrien?
C'est pour le coup, c'est de plus en plus concret. Déjà, c'est des autocollants d'ultra, etc. Voir des autocollants. Enfin, il y a plein de choses qui pop-up maintenant dans la ville, dans l'espace public. C'est des interventions ou des réunions qui peuvent être perturbées. Nous, au niveau local, ce qu'on a fait, c'est faire un grand collectif avec toutes les associations, les syndicats, les partis politiques qui étaient d'accord sur le sud de la région parisienne pour pouvoir justement essayer au moins de parler autour de ça et de me parler de manière un petit peu différente. Par exemple, en faisant du théâtre de rue, des petites scénettes pour permettre d'avoir des discussions différentes autour de ce que c'est l'extrême droite. D'avoir ce type d'action, des réunions publiques, bien sûr, mais aussi des actions un petit peu différentes pour parler là-dessus. Et puis je pense vraiment qu'en fait, de plus en plus, on arrive à un moment où les gens ne connaissent pas l'extrême droite. Et moi, pour le coup, c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est-à-dire que les gens sont prêts à voter extrême droite sans savoir que l'extrême droite, c'est le rétablissement de la peine de mort, sans savoir que l'extrême droite, sans savoir tout ce qu'elle porte en termes de valeurs. Et c'est là-dessus qu'on a un gros travail à faire, de nous être fidèles à ce qu'on porte, le porter et montrer la contradiction qu'on a avec eux.
Étienne, sur cette question-là, peut-être toi une réaction, comment tu vois ces questions?
Alors c'est vrai que là où je suis à Noisy-le-Sec, donc dans 93, on va dire la problématique de l'extrême droite n'est pas une problématique peut-être plus pressante que par rapport à la situation de Lille, que je connais un peu mieux, ou par rapport à ce qui parle de Sud. C'est vrai qu'après, c'est vraiment une problématique. Et voilà, donc moi je pourrais pas en dire plus que mes camarades pourraient dire.
Léa.
Nous par exemple avec le GT extrême droite de la LDH de Lille, on a fait un tract qui vraiment pour essayer de faire de la pédagogie sur ça, sur qu'est-ce que l'extrême droite elle vote au Parlement européen. Et du coup sur la réalité de c'est contre les précaires, contre toutes les libertés civiles, contre tout ça. Et au final juste essayer de faire de la pédagogie et de montrer ce que vraiment la plupart des Français ne savent pas. Et que même moi, si j'étais pas à la LDH, je ne saurais pas ce que l'extrême droite vote réellement. Et même contre les agriculteurs, contre tout ça. Donc ça, je pense que c'est important de travailler aussi comme ça.
Étienne, Jules, pardon.
Peut-être qu'à Lille, nous, on voit vraiment les conséquences concrètes de cette montée de l'extrême droite, étant donné qu'on voit de plus en plus de collectifs d'extrême droite qui agissent dans les rues, qui restent plus simplement cachés à faire leurs choses de leur côté. On voit qu'il y a de plus en plus, comme il disait, d'autocollants, mais ça va au-delà de ça. On a des actions qui sont menées par l'extrême droite à Lille. Et nous, à la Ligue, ce qu'on fait avec notamment notre groupe de travail extrême droite localement, c'est qu'on on essaye de comprendre un peu leur fonctionnement et de voir comment ils agissent afin de débunker un peu tout ça et de montrer aux gens, de faire comprendre le danger vraiment de ces collectifs qui sont réellement dangereux. Je repense à certaines personnes qui se sont fait tabasser sur l'île, c'est déjà arrivé. Donc,
Très bien, merci à vous quatre. Est-ce qu'il y a un autre point qu'on n'a pas abordé qui est présent là dans les discussions autour de ce congrès que vous auriez envie d'aborder, Jules?
Alors, moi je rajouterais peut-être au niveau de la section de l'île, nous ce qu'on a. Au niveau des jeunes, en fait, ce qu'on a proposé à la section de Lille, c'est notamment d'avoir plus de support au niveau de national, afin que la Ligue puisse se diffuser sur d'autres réseaux sociaux, notamment des réseaux plus jeunes comme Instagram. Mais aussi, ce qu'on va proposer en termes de vœux, si celui-ci est accepté, on proposait en fait d'organiser un festival qui puisse avoir lieu au sein de la Ligue et qui puisse ainsi mobiliser les jeunes. Et on pense vraiment que cette idée, qu'il faut vraiment que la Ligue s'axe là-dessus, parce que c'est avec la jeunesse qu'on va réussir à combattre toutes les idées extrême droite et aussi à construire ensemble un projet social d'une meilleure société pour demain.
Adrien, un dernier petit mot ?
Non, mais pour ajouter aussi l'écologie et la présence de la LDH sur les mobilisations de Sainte-Soline, de manière générale sur les mobilisations écologiques, et aussi parler des universités, où notamment à Lille, hein, la LDH est très présente, mais en fait un peu partout, et où on se bat pour la liberté d'expression, par exemple dans le cas du conflit israélo-palestinien, pour que des réunions sur la paix puissent se tenir, etc. Et c'est important que les gens puissent aussi s'engager là-dessus, et puissent s'engager simplement pour avoir le droit d'opinion, le droit de s'exprimer.
Merci beaucoup Adrien, merci à vous quatre. Donc Adrien de la LDH de Massy-Palaiseau-Verrières, Jules et Léa de Lille et Étienne de Noisy-le-Sec. Merci beaucoup à vous quatre. On vous laisse retourner dans ces discussions qui se poursuivent donc ce soir, dimanche et lundi, dans le cadre du 92e congrès de la Ligue des droits de l'homme.
Voilà pour ces interviews enregistrées donc samedi dernier. Vous entendez, il y avait un peu de bruit, d'ambiance, du monde autour de nous dans ce village des droits et libertés. On continuera à vous faire entendre ce qu'on y a enregistré, notamment il sera question de logement, de la Guinée ou encore des observatoires des libertés publiques. Vous entendrez ça dans les jours à venir dans le plat de résistance. Et pour l'heure, pour aujourd'hui à 12h50, on va enchaîner, poursuivre cette émission avec la chronique écho des clés de l'écho.
Le désarroi de parents découvrant que leur ado est de droite et qu'il adhère aux éditos de Dominique Seul.
Il n'y a pas d'alternative avec la réalité.
Il n'y a pas d'autre choix.
Il n'y a pas d'alternative. Ça passe pas bien, ça, cette idée-là.
Et cette semaine, c'est Michel Cabanne qui nous donne les clés de l'écho. Bonjour Michel.
Bonjour Baptiste.
Je rappelle Michel que tu es professeur d'économie émérite de l'Université de Bordeaux et aujourd'hui tu nous parles de l'extractivisme persistant.
Oui, l'extractivisme c'est un compagnon de route du capitalisme. Il correspond à une exploitation massive des ressources naturelles, à une quête sans limite des matières premières. Cela concerne les exploitations minières, métaux, minerais, charbon, les exploitations pétrolières et gazières et l'exploitation intensive aussi des ressources agricoles, forestières et maritimes. L'extractivisme minier a accompagné le développement industriel. En France, du XVIIe à la fin du XXe, il y a eu près de 5600 mines qui ont été exploitées, charbon, fer, plomb, argent, zinc, cuivre, etc. Alors, l'extractivisme sur le plan historique, on peut dire que c'est un phénomène tout à fait prédateur. À l'époque de la colonisation, l'extraction des ressources naturelles était destinée à l'exportation vers les métropoles. Cela s'insérait dans la spécialisation traditionnelle des pays du Sud, dans l'exportation de produits primaires, et des pays du Nord, dans l'exportation des produits manufacturés. Ce modèle a parfaitement survécu à la décolonisation. L'extractivisme domine dans les économies des pays du Sud, surtout les pays d'Amérique latine. Les firmes multinationales exploitent la faiblesse des normes sociales et environnementales dans ces pays pour imposer leur politique prédatrice. Elles accaparent des territoires au détriment des populations autochtones, elles opèrent sans véritable consultation des populations locales, elles créent des pollutions dévastant les écosystèmes, elles nuisent aux activités de subsistance, pêche, agriculture, élevage, elles mettent en péril le droit à l'eau et à un environnement sain des populations riveraines. L'agriculture et l'élevage intensif polluent, épuisent et assèchent les sols et contribuent à la déforestation. Alors les populations locales mènent des luttes courageuses contre les firmes multinationales, mais la répression est souvent féroce. Plus de 2000 défenseurs de l'environnement ont été assassinés ces 20 dernières années, le Mexique détenant le record. Plus des trois quarts des attaques des défenseurs de droits ont lieu en Amérique latine. Un quart de ces assassinats sont liées à l'extractivisme, principalement au secteur minier. Les peuples autochtones sont les plus visés, plus de 40% de ces assassinats. Et l'extractivisme, ben, il se porte toujours bien. Au cours des 20 dernières années, les volumes de métaux extraits dans le monde ont doublé. Partout, les entreprises, soutenues par les États, repoussent les limites des frontières extractives. Et pour la suite ? Eh bien, pour la suite, on peut parler d'un bel avenir de ce phénomène. L'avenir de l'extractivisme s'annonce sous les meilleurs auspices. Pourquoi ? Parce que la décarbonation de l'économie nécessite le recours à beaucoup de métaux. Pour sauver le climat, ouvrons des mines, résume l'économiste Nadine Levrateau pour décrire la problématique actuelle. Une course aux métaux, lithium, cobalt, cuivre, etc., est lancée pour poursuivre pour produire des énergies vertes, éoliennes, panneaux solaires, batteries. Pour la Banque mondiale, l'extraction des ressources minérales est un complément et non un obstacle à la construction d'un avenir plus vert et plus durable. La course aux matières premières est aussi un enjeu de la rivalité entre les grandes puissances, États-Unis, Chine, Russie, etc. Avec la nouvelle ruée sur les métaux, les volumes extraits pourraient être multipliés par plus de 5 d'ici 2050. On ne saurait pourtant oublier qu'une extraction débridée des métaux qui se substitue à celle des énergies fossiles présente des dangers aussi pour les écosystèmes. L'extraction minière crée des pollutions liées à l'accumulation de déchets, de dépôts de matières toxiques, de produits chimiques, dégradant l'eau et les nappes phréatiques, voire l'ancienne mine d'or de Salsigne dans l'Aude. La préservation des écosystèmes doit concerner les pays du Sud comme les pays du Nord. Il n'y a pas de raison de réserver l'extraction des métaux aux pays du Sud. Il nous faut partout renoncer à la boulimie extractiviste. Il faut, d'une part, réduire le contenu en matériaux de l'économie, notamment par le recyclage des matériaux critiques, dont les terres rares. L'objectif européen actuel est seulement de 10% de la consommation annuelle. Il nous faut, d'autre part, opérer une réflexion collective sur les besoins à satisfaire afin de réaliser un effort partagé de sobriété.
Merci beaucoup Michel pour cette chronique qui est bien d'actualité, qui fait écho aussi à une autre chronique de Félix Garnier sur l'extraction, sur le projet de mine de lithium, je crois, dans le département de l'Allier, et qui fait écho aussi au projet de raffinerie de nickel sur la commune de Parampuire, à côté de chez nous, pour laquelle il y a pétition qui a été lancée. Merci beaucoup Michel. Il me semble que ce soir, tu interviens avec les amis du Monde Diplo, je ne me trompe pas ?
Oui, à Bègles. Sur la société néolibérale.
Et c'est à quelle heure et quel endroit le rendez-vous ?
À 19h30.
Très bien, au Théâtre du Levain ?
Exactement.
Voilà, mais ben, nos auditeurs, auditrices peuvent t'y retrouver. Merci beaucoup Michel et puis à bientôt pour une prochaine chronique. Bref.
atagira ati tuyizere kandi tuyisenge ni mahoro
On termine avec quelques notes de Kaya Binchi. Kaya Binchi qui sera en concert ce samedi soir au Rocher de Palmer en première partie. D'un artiste dont j'ai oublié le nom, mais voilà, allez-y pour Kaya Binchi. Cet après-midi, vous pourrez entendre plutôt ce soir à 19h La Voix Off sur notre antenne, à 20h Yapou toutes les musiques et 21h Radio Biche. Pour l'heure, il est 13h. On va